France Musique.
Merci à vous Christophe Bourseiller, nous vous retrouvons dimanche prochain à 17h pour un nouvel épisode de Musicus Politicus.
Les menus plaisirs de Bruno Mantovani.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes menus plaisirs. Quand Marie-Pierre de Surville, la patronne de France Musique, m'a proposé il y a un an de produire une émission hebdomadaire, je lui ai répondu que j'aimerais beaucoup évoquer à l'antenne le sujet qui m'intéressait le plus en matière de musique et d'autres domaines de la vie d'ailleurs, à savoir le plaisir. J'ai proposé quelques minutes après à ma future directrice le titre de mon émission, titre qui repose sur un jeu de mots. En effet, il y a plaisir, il y a le menu, ce qui est signifiant pour le gastronome que je suis, les menus plaisirs, c'est-à-dire le divertissement, et puis aussi une référence à un immeuble parisien, l'hôtel des menus plaisirs, qui abritait au XIXe siècle une école qui m'est chère, le Conservatoire de Paris. Quelques jours après cet entretien, j'ai décidé que ce moment hédoniste pourrait revêtir trois formes différentes. Soit l'analyse d'une œuvre, soit l'évocation d'une thématique, soit un entretien avec un invité autour de ses propres plaisirs musicaux. J'ai évoqué dès juin dernier de nombreux musiciens que j'aimerais avoir à mes côtés, dans mon studio de France Musique, mais aussi un philosophe dont j'admirais le travail et dont je me sentais immodestement très proche, Michel Onfray. La liste de ce qui nous réunit, Michel Onfray et moi-même, est longue. Une forme de gourmandise tournant à la boulimie. Nous aimons produire abondamment et nous aimons aussi dévorer, dans une logique exhaustive, les œuvres des autres. Une quête du plaisir aussi qui n'exclut en rien les formes les plus abstraites ou intellectuelles d'y parvenir. Une passion pour la gastronomie et l'œnologie, j'en profite pour citer le livre « Champagne, la vie secrète des bulles » qui est un merveilleux ouvrage d'art sur un sujet pour le moins pétillant et auquel a participé mon invité du jour. Nous nous retrouvons aussi dans une volonté commune de résistance par l'acte intellectuel et artistique, notamment face aux obscurantismes religieux ou idéologiques qui rabaissent et prônent le repli sur soi plus qu'ils n'élèvent. J'ai donc proposé à Michel Onfray d'être mon invité, ce qu'il a accepté, et cela m'a permis de replonger dans une œuvre vaste qui comporte plus de 80 livres, le dernier publié s'intitulant « Cosmos ». C'est pour son auteur un véritable opus 1. Michel Onfray a beaucoup écrit sur la musique, notamment dans cet ouvrage, et ce sont deux numéros de mes menus plaisirs qui lui seront consacrés, aujourd'hui et la semaine prochaine. Le cosmos, pour vous Michel Onfray, c'est une façon de définir ce qui réunit l'hétérogène. Or la musique peut être aussi fondée sur la confrontation d'idées antagonistes et être un véritable cosmos. Est-ce qu'une œuvre d'ailleurs est un mini-cosmos pour vous, cher Michel ?
Ah oui, si je suis panthéiste, j'ai pas très envie de l'être parce que j'ai pas envie non plus de rentrer dans des cases. Mais effectivement, tout est divin et tout est fragment du divin. Donc une œuvre est une espèce de fragment divin arraché au divin et comme un verre d'eau, un verre de vin aussi, mais comme une lumière, comme la texture d'un petit matin ou d'une brume qui se lève. Et effectivement, c'est une invitation à savoir que nous sommes fragments d'un tout et qu'il y a plaisir à être fragment. À savoir que le grand tout nous est central, parce qu'en fait le tout il n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous. Quand j'invite à chercher le cosmos, je découvre qu'il est finalement dans l'épicentre de ce que nous sommes.
De toute façon, il s'agit d'un cosmos très subjectif, parce que aussi oui. Très fondé sur votre propre expérience. Le premier chapitre, qui est assez bouleversant d'ailleurs, sur le champagne, le millésime de champagne correspondant à la naissance de votre papa, est un mouvement, vous voyez, je parle en tant que musicien et pas en tant que littéraire, qui est particulièrement fort et particulièrement touchant. Et il y a aussi une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que finalement, quand je regarde vos choix musicaux du jour, on est beaucoup dans la musique répétitive, dans la répétition. Or, votre ouvrage est pas du tout fondé là-dessus, même si vous faites allusion à la musique répétitive à la fin. Il est beaucoup plus fondé sur l'hétérogène. Et c'est ça, c'est très intéressant aussi, parce que la balance entre l'hétérogène et la répétition, chez vous, est une chose assez permanente, je trouve.
Oui, vous avez raison. Ceci dit, l'hétérogène ne l'est que par rapport à un a priori que je n'ai pas. C'est-à-dire que c'est vrai que a priori, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, je me disais, mais où va-t-il m'emmener? Une fois le hérisson des tziganes, une fois effectivement la musique répétitive, une fois les masques africains, une fois un ver nématode qui parasite les anguilles, autrefois effectivement les anguilles, autrefois les étoiles. Et puis je me suis dit, mais oui, effectivement, et c'est vous qui me qui me montrait qu'effectivement le concept d'hétérogène est bienvenu dans cette histoire, et que s'il y a de l'hétérogène, il est en mouvement, et que le mouvement de l'hétérogène, c'est la répétition, parce que le cosmos est une répétition, c'est étymologiquement c'est un ordre, et on voit bien que la nuit succède au jour, que les années succèdent aux années, et le tout dans un rythme impeccable. C'est-à-dire, il n'y a pas plus musique répétitive que l'ordre du cosmos, ou que la musique du cosmos, ou que la musique des sphères, si on veut utiliser le vocabulaire de Pythagore. Et ce sont des choses qu'on ne voit pas quand on est petit garçon, qu'on voit au fur et à mesure, qu'on saisit un petit peu plus tard, et qui, à mon âge, je veux dire, passé 50 ans, à mon âge, devient une espèce d'évidence. On comprend que ce rythme-là nous anime véritablement, et que la véritable musique, elle est répétitive. On revient, on ne revient pas dans l'identique. C'est ça qui est intéressant aussi dans la musique répétitive américaine, c'est-à-dire que a priori, il y a une cellule qui se répète et on a l'impression que c'est la même, et puis il y a une espèce de léger décalage au fur et à mesure, et au bout du compte, on est ailleurs. On a répété, mais pas exactement la même chose. Et il suffit d'un clinamen, pour utiliser le vocabulaire d'Épicure, c'est-à-dire d'un atome qui dévie, donc un petit atome de musique qui dévie, et puis au bout du compte, on a la création d'un monde et d'un autre ordre. Et quand on a écouté une pièce répétitive, on a eu l'impression que ça se répétait, mais ça ne se répétait pas exactement, ça ne coïncidait pas exactement, puisque il y a pas une répétition du même, mais une répétition de la différence, et l'ordre, c'est ça. Et ce qui s'installe dans la différence, c'est le temps.
Alors justement, vous faites allusion au cycle des saisons aussi dans votre livre. Vous nous avez évidemment pas gratifié des quatre saisons de Vivaldi pour ce programme musical, mais on va quand même commencer par une œuvre qui est à la fois répétitive et pas tant que ça, quelque part, qui est une espèce de, je dirais, déjà de prise de distance par rapport à la répétition. C'est Proverbe de Steve Reich, donc pour ensemble vocal et percussion, qui est, on a déjà écouté pas mal de musique de Steve Reich dans cette émission, et qui est une œuvre assez atypique parce qu'elle est à la fois dans la musique répétitive américaine et dans la référence à une musique beaucoup plus ancienne. Et je pense que peut-être on est aussi dans une forme de cosmos, là, de quelque chose qui réunit des choses antagonistes, mais de façon très cohérente, et c'est, je pense, une des, d'ailleurs des grandes prouesses de votre livre. Vous dites, Michel Onfray, que la durée vécue n'est pas la durée perçue. En tout cas, vous écrivez ça dans Cosmos. Eh bien, nous avons écouté 14 minutes de musique avec Proverbe de Steve Reich, dirigé ici par Paul Hillier. Et cette forme est tellement condensée, tellement logique, on a l'impression que c'est beaucoup plus court. Donc, en effet, je vous rejoins complètement dans cette vision très bachelardienne du temps, de ce côté extrêmement fugace et extrêmement chargé de chaque instant qui fait que finalement la musique passe très très vite.
Oui, et puis il y a quelque chose d'étonnant, c'est un peu comme avec Arvo Pärt, c'est-à-dire que si on écoute un peu à l'aveugle, enfin comme on déguste à l'aveugle un vin, on peut être troublé par l'époque. Il y a une espèce de raccourci, on a l'impression que ça pourrait être cistercien et que au XIIe siècle on chantait comme ça ou presque, tout est dans le presque d'ailleurs, dans les abbayes. Et il y a une façon de raccourcir le temps qui fait que notre existence est subjective, mais notre civilisation est subjective aussi. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on ne perçoit pas le temps comme à 20, comme à 30, comme à 40. Et j'imagine ce que ça peut être ressentir le temps quand on a 80 ou 90 ans. Eh bien, c'est la même chose pour la musique. D'une civilisation ou la musique que pourrait faire une civilisation, entendons-le plutôt comme ça, quoi. Comment on pourrait imaginer une civilisation judéo-chrétienne de Constantin jusqu'à aujourd'hui et le son qu'elle pourrait faire. Et ces deux sons coïncident, le son de l'individualité qui vieillit et le son de la civilisation qui vieillit aussi. Et nous qui, à notre temps, à notre âge, nous captons ce temps-là qui a été saisi par Reich en l'occurrence, mais et qui nous est montré comme le temps de notre civilisation. C'est-à-dire, c'est une espèce de reflet ou de musique en miroir. C'est pas tant la musique du cosmos que quelque chose qui dirait notre civilisation. C'est très apaisant, c'est très sobre, et on voit bien comment la répétition produit le presque dans lequel tout s'enracine. Et ce presque-là, c'est nous, quoi. Tout nous est dans le presque. Je suis presque chez Jean Kelevitch en utilisant ce concept-là. Bachelard, bien sûr, vous avez raison, mais Jean Kelevitch aussi, parce qu'il y a dans la musique répétitive une invitation à méditer sur le presque.
Mais justement, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Et après tout, le diable peut s'inviter au micro des menus plaisirs. Cette répétition qui est un facteur d'hédonisme pour vous, est-ce que justement elle n'est pas aussi l'installation d'une forme de prévisibilité, de linéarité qui n'est pas justement le chaos organisé dans ce cosmos, mais qui serait quelque chose de, je dirais, de finalement de loin de notre perception actuelle du monde, qui est une perception qui est quand même totalement dans l'énergie, dans le contraste, dans la force et dans la violence.
Moi, je crois pas au chaos. Le chaos, c'est un ordre qu'on n'a pas compris. C'est pas le désordre. Le chaos, c'est un ordre caché qui attend qu'on le décrypte. Mais on voit bien que il y a des causalités magnifiques dans le cosmos et que ce qu'on appelle chaos, c'est ce qu'on n'a pas encore compris. La répétition, ça se pense en termes d'éthologie, je crois. C'est-à-dire qu'on sait bien que les animaux sont inquiets par la nouveauté. Ils sont inquiétés par la nouveauté parce que on voit les oreilles, les babines, les narines, enfin tout fonctionne. Il y a de la crainte, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Il peut y avoir de la prédation, on risque sa peau. Et quand on est dans l'habitude, on est dans le rituel, la répétition, c'est aussi ce qui calme. C'est apaisant. Parce que on n'a pas besoin de décoder les odeurs, les phéromones, les parfums. On n'a pas besoin de regarder s'il y a du danger ici, là ou ailleurs, s'il y a des zones d'ombre dans laquelle pourrait se cacher un loup ou quelque chose qui pourrait nous en vouloir. La répétition, c'est l'habitude. L'habitude, c'est sécurisant. Et on a besoin d'une espèce de paix, de sérénité mentale dans un monde où effectivement tout est plutôt violence et brutalité.
Alors on va regagner aussi les territoires de la paix, mais d'une paix qui est beaucoup moins, je dirais, linéaire et beaucoup moins prévisible peut-être qu'une partie de la musique répétitive qu'on va écouter aujourd'hui. Il s'agit de la transcription réalisée par Anton Webern du Richard Carr de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. Là aussi on a une espèce de synthèse temporelle puisqu'il y a quelques siècles qui séparent l'écriture de l'œuvre originelle et cette version orchestrée de façon très pointilliste. Il est où votre cosmos là-dedans dans cette œuvre-là?
Moi, j'aime bien que ces deux-là soient réunis dans un même monde parce que la forme de Bach et la forme de Webern sont absolument semblables et on voit bien la coïncidence. Là, pour le coup, au sens étymologique, on a une superposition absolument exacte de ces deux univers-là. On a plutôt l'impression que l'un est riche, baroque, alors que l'autre est austère, pur comme un diamant et rare. Mais en fait, c'est exactement la même chose parce que il y a une façon de capter les rythmes du monde chez ces deux-là dans cette œuvre-là. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la physiologie, là encore. C'est-à-dire la respiration, la circulation sanguine, les flux qui parcourent un corps. Et que Webern et Bach avaient vraiment saisi les mouvements de ces flux-là et que cette façon de composer qui est impeccable, elle est impeccable justement parce qu'elle a saisi les mouvements du cosmos qui sont en nous.
Alors on écoute une version impeccable, celle des APK Salonen, à la tête de Los Angeles Philharmonic dans cette transcription du Richard Carr de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach par Anton Webern.
Thank you.
C'était Esa-Pekka Salonen qui dirigeait le Los Angeles Philharmonic dans cette transcription de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach par Anton Webern, qui me renvoie directement à un paragraphe merveilleux dans votre livre Cosmos, cher Michel Onfray, où vous expliquez que le déroulement du temps n'est pas régulier, n'est pas linéaire, que le temps n'est qu'accélération et ralentissement. Or, on entend dans cette musique que les effets de contraste d'orchestration ont cette capacité de nous surprendre et de créer des espèces de poussées d'adrénaline qui nous font totalement relativiser la linéarité du temps. Enfin, j'ai vraiment l'impression que par le génie de l'orchestre, Webern arrive à briser une forme de continuum qui est pourtant le continuum de Jean-Sébastien Bach.
Oui, c'est vrai. Le temps, c'est vraiment la vitesse de la matière. Et là, pour le coup, la matière, elle est sonore. Enfin, on a les simulacres d'Épicure qui circulent avec des accélérations, des ralentissements. Et on a donc une variation temporelle sur le temps qui nous montre que ce temps-là entre en coïncidence avec notre propre temps. Et c'est notre physiologie qui est exacerbée. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une musique cérébrale, bien sûr, mais elle fait la preuve de l'union de l'âme et du corps. Parce que gardons le principe des simulacres d'Épicure, mais les simulacres arrivent en nous et s'emparent de nous avec une capacité à dresser le corps comme on dresse un cheval fougueux d'une certaine manière et à obtenir de nous des ralentissements de respiration, de rythme cardiaque. Enfin, quand on écoute, c'est presque un exercice spirituel. Quand on écoute vraiment, c'est-à-dire pas quand on a l'oreille qui traîne, mais quand on entre dans la musique et qu'on laisse la musique entrer en nous, il y a une façon pour Bach et Webern de s'emparer de notre physiologie en disant voilà le pouvoir qu'a la musique sur le corps. C'est assez impressionnant, hein. Je veux dire que là, vous avez trouvé une belle interprétation. Moi, c'était pas l'interprétation que je connaissais. Et il y a effectivement une pureté dans cette interprétation qui ajoute à la pureté des deux compositeurs.
Il y a quand même une chose qui est totalement hors de propos dans cette musique. C'est que on a à la fois l'autorité de construction de Jean-Sébastien Bach, une forme de réinterprétation moderne assez froide de Webern. Et là, il y a un troisième niveau qui est l'interprétation extrêmement romantique de Salonen, oui, qui fait des choses très phrasées, très belles, d'une opulence incroyable, qui est vraiment un contrepoint par rapport aux deux compositeurs de base que sont Bach et Webern. Et je trouve que ce qu'il y a de merveilleux dans cette version, c'est que finalement, ça me renvoie à une chose que vous dites d'ailleurs sur Dom Pérignon et Lully, en disant ce sont deux créateurs contemporains qui permettent de passer de la mythologie chrétienne au règne de la science, et quelque part le champagne étant une forme de science, enfin de, en tout cas de développement de la science. Et là, on ne sait plus très bien de quoi on est contemporain, en fait. Est-ce que l'interprétation est notre propre contemporanéité d'une œuvre qui est une œuvre qui elle-même est écrite sur plusieurs siècles, puisqu'il y a eu deux compositeurs qui se sont penchés dessus? Moi, je suis très troublé dans cette version, précisément par le... Vous parliez tout à l'heure à propos de Steve Reich, de l'impossibilité de dater certains passages. On ne sait pas si on est à la musique du Moyen-Âge ou dans la musique répétitive. Eh bien là, le produit final, si je puis m'exprimer de façon aussi vulgaire, est indatable parce qu'aussi cette interprétation la rend totalement indatable.
Je suis pas sûr, au contraire, j'ai l'impression qu'elle est datée, elle aussi. Enfin, moi, j'ai l'œuvre complète dans un coffret Webern. Je crois que c'est Boulez qui dirige dans la version que j'ai en tête. Sûr. Et évidemment, Boulez dirige plutôt dans l'esprit de Webern que dans l'esprit de Bach. On a ici l'impression que c'est plutôt dirigé dans l'esprit de Bach que dans l'esprit de Webern.
Ou plutôt dirigé dans un esprit qui est, enfin, à mon avis, ni l'un ni l'autre. Enfin, qui est un Bach assez romantique, comme un peu Herbert von Karajan pouvait le diriger, par exemple. Oui. Mais on est vraiment dans une autre dimension. C'est Pour moi, c'est totalement intemporel, ce qu'on vient d'entendre.
Oui, vous savez, Bach est redécouvert par Mendelssohn au 19e, et on fait pas l'économie de cette redécouverte, qui est une découverte romantique, mais il y a eu, heureusement, les baroqueux, comme on dit, qui nous ont restauré ou restitué un probable Bach dans son jus et dans son temps. Mais quand Boulez s'empare de cette œuvre-là, il a une façon de la dire, qui est de son siècle, qui est même extrêmement datée. Et c'est très bien, d'ailleurs, moi je suis pour le fait qu'on prenne en considération la datation des œuvres, ça permet de mieux les comprendre, et puis d'éviter la polémique. Il y a des œuvres nécessaires en un temps qui ont cessé d'être audibles dans un temps suivant. Mais je pense que cette interprétation romantique, elle est pas d'aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'elle aurait pu être du 19e.
Voilà. Ouais.
Et que celle qui est d'aujourd'hui, c'est celle qui est plutôt d'hier, je dirais, qui est celle de Boulez, parce qu'il y a une espèce de saisie chez Boulez de l'extrême mathématicité, si je pouvais me permettre l'expression. Enfin, c'est dirigé comme du Mondrian. J'ai vraiment l'impression que c'était dirigé comme du Mondrian, alors qu'ici, c'est plutôt dirigé comme du Schiele, du Klimt, avec quelque chose d'un peu viennois. Je pense que bon, je suis heureux de découvrir cette version que j'ignorais, mais je vais en rester à la mienne, parce que probablement, elle est celle dans laquelle j'ai découvert l'œuvre, et on y est habitué. Nous parlions de l'habitude tout à l'heure comme quelque chose d'apaisant et de sécurisant. J'y retrouve mon Webern et mon Bach, bien sûr, mais avec une espèce d'emphase que j'ignorais et que je trouvais étonnante.
Alors on va retrouver une musique apaisante, on écoute la fin du troisième mouvement de la deuxième symphonie de Philip Glass. C'était le réjouissant final de la deuxième symphonie de Philip Glass par le Bournemouth Symphony Orchestra, dirigé par sa chef d'alors, qui s'appelait Marine Alsop. Là, on est dans une répétition, je dirais, presque parodique, hein, ce qui nous transporte très très loin de Steve Reich tout à l'heure. Finalement, la répétition peut être très humoristique aussi.
Je sais pas, oui, vous avez l'impression qu'il y a de l'humour, là, volontairement?
Écoutez, en tout cas, on le perçoit comme ça.
Oui.
Parce que c'est quand même un jeu sur tous les archétypes. Tout à l'heure, c'était un jeu sur les archétypes. Je parle tout à l'heure de Steve Reich, qui était, je dirais, lié à une espèce de délicatesse et d'austérité d'une forme de musique du Moyen-Âge. Alors que là, on est dans l'archétype de ce qu'il y a de plus simple dans la musique occidentale, qui est l'accord parfait.
Oui. Oui, d'abord, le Steve Reich précédent était quand même très atypique chez Steve Reich aussi. C'est quelque chose que j'ai choisi justement pour cette raison, parce que c'est pas ce qu'on attend ou ce qu'on entend habituellement chez lui. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas parodique, mais de joyeux, de ludique, d'heureux, d'un peu rabelaisien même, d'une certaine manière, assez corporel. C'est scintillant. C'est hédoniste, au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est pas a priori compliqué. On cherche pas quelque chose de complexe, mais on adhère tout de suite à la proposition qui nous est faite parce que elle est simple. Mais elle est simple comme sont belles les choses simples ou comme sont simples les choses belles.
Alors, on va passer à une musique qui est tout aussi fondée sur la répétition, mais qui est beaucoup plus complexe, qui est Le Noir de l'Étoile de Gérard Griset, une pièce absolument fascinante pour les percussions de Strasbourg, avec l'apparition de sons des étoiles, puisqu'il y a des machines reliées aux sonorités des étoiles qui viennent créer un contrepoint. Là aussi, on est dans une répétition, mais dans une répétition, j'allais dire, beaucoup plus sombre, beaucoup plus grave. Et c'est un choix qui m'a un petit peu surpris de votre part, d'ailleurs.
Moi, j'ai découvert. D'abord, pourquoi ça vous a surpris?
Parce que justement, il me semblait qu'on avait une progression qui allait jusqu'à cette œuvre de Philip Glass, qui était justement très, très hédoniste au premier degré. Et là, on passe dans quelque chose de tellement plus sombre pour finir.
Oui, sûrement. Enfin, c'est d'abord, c'est Jean-Pierre Luminet qui m'y a conduit. C'est un ami astrophysicien dont j'ai découvert les œuvres avant de découvrir l'homme, qui est adorable, qui est un poète, qui est extrêmement cultivé, drôle, etc. Et qui avait travaillé justement à partir d'un son réel, qui est le son des étoiles. Et ça, c'est quand même assez saisissant de savoir que les étoiles ne communiquent avec nous qu'avec les lumières, que les lumières, ce sont des vitesses, que les vitesses, ce sont du temps, et que d'une certaine manière, les lumières avec lesquelles les étoiles communiquent avec nous, ce sont des musiques. Et ces musiques-là, qui sont des musiques naturelles, il voulait les mettre en relation avec le travail de Gérard Griset. Et cette façon, d'ailleurs, je trouve qu'on pourrait aussi parler du spectral. C'est intéressant, la question du spectre, pour le coup, dans la musique, bien sûr, mais au-delà de sa signification musicale, c'est-à-dire cette espèce de grande ouverture qui peut aller jusqu'au cosmos et jusqu'au cosmique. Et la mise en relation de la lumière, qui est une vitesse naturelle, donc un bruit qui est un son, des étoiles, plus le son qui est le son volontaire de la musique, fait un contrepoint qui m'a séduit, parce que d'un seul coup, on entre dans le cœur nucléaire, je dirais, de la matière. Parce que là, vraiment, on guette un son en sachant qu'il va passer, on le saisit et on propose un contrepoint musical. C'est assez impressionnant.
Alors, on va s'abandonner dans cette musique cosmique. C'est vraiment le cas de le dire.
Absolument.
Percussions de Strasbourg interprétait ce deuxième mouvement du Noir de l'Étoile, une pièce absolument spectaculaire de Gérard Griset, qui était choisie par Michel Onfray. Michel, on se retrouve la semaine prochaine avec une playlist, comme on dit en langage moderne, totalement différente de celle d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de mes menus plaisirs consacrés à Michel Onfray. Merci à toute mon équipe, l'attaché de production était Annie Comier, l'ingénieur du son Jean-Louis Deloncle, et à la réalisation, on retrouvait Éric Lancien. Dans quelques minutes, après les communiqués, vous retrouverez le journal de 19h, puis Édouard Four et Colfuti et ses carnets de voyage. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, toujours à 18h sur France Musique, pour un nouveau numéro de mes menus plaisirs, toujours en compagnie de notre philosophe de l'hédonisme. Au revoir.